Bonjour, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ce 10e cours sur le cours de la prière. Donc, ce matin, peut-être que le froid nous a ralenti dans nos voitures. La voiture ne voulait pas partir aussi rapidement. Moi, de mon côté, la vitre ne voulait pas dégeler aussi rapidement. Ça a pris une dizaine de minutes avant que la vitre dégèle. Oui, il y en a qui grattaient leur vitre. Alors, il est déjà 9h passées, donc je commence, même s'il y en a qui vont être en chemin. Mais je sais que s'il y en a qui manquent le début, c'est accessible 6 jours plus tard là, sur le web, au niveau vidéo sur YouTube. Donc, merci d'être présent, merci d'être là. Je sais qu'il y en a qui vont venir, qui vont rentrer, peut-être juste fermer la porte de la grande salle, s'il vous plaît. Et puis, aujourd'hui, on termine la troisième partie. De notre livre « La prière » qui est écrit par Tim Keller. Et cette troisième partie-là, qui s'intitule « Apprendre à prier », se termine par le titre au chapitre 9, « Les pierres de touche de la prière ». Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une pierre de touche? Personne, hein? Moi, je vais dire comme dans ma belle famille, moi, je savais c'était quoi une pierre de touche, mais je ne savais même pas que je le savais c'était quoi. Pour la première fois l'année dernière, j'ai vu ce que c'était une pierre de touche. Ma femme a reçu un petit dépliant pour dire, si vous voulez vendre des bijoux, venez nous voir dans le sous-sol de l'église, quelque part à Longueuil, là, une église catholique, et amenez vos bijoux, on va évaluer combien on peut vous donner pour ces vieux bijoux-là que vous voulez vendre. Et puis, on avait une bonne gang. Il y en a qui étaient reliés à ceux qu'elle reçoit en cadeau, en héritage et tout ça. Donc, on a amené probablement une trentaine de différents morceaux, des bracelets, des montres, des bagues et tout ça. Et on s'assoit à une table. Puis là, l'évaluateur, le monsieur devant nous, il s'installe. Puis là, il prend un morceau de bijoux. En fait, il prend un des bijoux. Puis il commence à frotter ça sur une pierre. Dit, qu'est-ce qu'il fait là? C'est bizarre. Puis il prend le deuxième, continue à frotter le deuxième, troisième. Puis un à côté de l'autre, il frotte tous les bijoux qui semblent être, selon ses yeux, de l'or. Puis après ça, il met un produit dessus. Puis là, tout d'un coup, poum! Ça révèle si c'est de l'or à 0%, donc c'est pas de l'or. Si c'est de l'or 2 carats, 10 carats, 20 carats et tout ça. Force est de constater que ce qu'on avait apporté n'avait pas grand valeur, mais c'est ça une pierre de touche. Avec le produit chimique, ça permet de révéler la pureté du métal qui est évalué avec cette pierre-là et avec ce produit-là. Donc, j'ai dit, ah, je sais c'est quoi. Puis la première fois, l'année dernière, je l'ai vu, j'ai expérimenté. Puis, j'étais surpris que l'auteur utilise cet exemple-là, mais j'ai dit, je vais prendre le temps d'expliquer. Puis, c'est beaucoup plus facile à expliquer lorsqu'on l'a vu. Donc, j'ai trouvé une image qui représente un peu ça. Et pourquoi il utilise l'analogie de la pierre de touche? C'est autant cette technique-là révèle la pureté du métal, mais dans la prière, à cause de nos péchés, sont teintés d'impuretés. Sont jamais totalement parfaites et bonnes, nos prières. Et puis, pour être certain que nos prières soient dignes de son objet, soient dignes du maître à qui on s'adresse, à Dieu, mais on peut évaluer la valeur de nos prières. Donc, et juste rappeler que comment nos prières se rendent à Dieu, ce n'est qu'une grâce. Parce que si c'était juste par nos propres moyens, ce serait impossible d'être en communication avec Dieu. Juste dans l'Ancien Testament, on voyait que la communication avec Dieu était possible qu'une fois par année par le souverain sacrificateur qui s'attachait une corde derrière lui et s'il arrivait impur puis devant la présence de Dieu, il mourait, mais au moins il y avait une manière de le sortir de là, il ne peut pas rentrer, il tirait par la corde puis là, le souverain sacrificateur, bien, il changeait. Donc, dans le fond, lorsqu'on regarde nos prières, Jacques 5,16, il parle d'efficacité par rapport à nos prières. Et il y a plusieurs, donc l'auteur a identifié une douzaine de pierres de touche pour évaluer l'efficacité, évaluer la, la, la profondeur, la pureté de nos prières. Mais il faut faire attention. Ces outils-là, ce n'est pas des recettes miracles. Ce n'est pas le secret caché depuis 2000 ans. Et voici maintenant, avec ces techniques-là, je vais apprendre à prier. Voici la clé du succès. On a la grâce d'avoir accès aujourd'hui à tellement de livres sur la prière, donc entre autres ce cours-ci. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, on a fait une série, même le dimanche matin, sur le livre « L'heure qui a changé le monde », « The Hour that changed the world ». J'ai utilisé, moi, ce livre-là avec l'Église de Sorel. Pendant un an de temps, on a regardé une fois par mois chacun des chapitres pour apprendre à prier les mercredis soirs. Et présentement, un autre super bon livre sur la prière de Nine Marks avec John Owunchikwa. Donc, je ne le dis peut-être pas si bien, je n'ai pas pratiqué, mais on est arrivé à l'avant-dernier chapitre mercredi dernier. Et la prochaine fois que j'y retourne, on va terminer ce livre-là. Et il y a plein d'autres livres. Je suis allé dans la bibliothèque de notre pasteur Yannick. J'ai trouvé presque une dizaine de livres qui parlent de la prière. Donc, on a plein de livres. « Comment prier » par Reuben Torrey. La prière de G.C. Rice. Puis, je ne suis pas en train de vous dire que c'est tous les meilleurs livres. Là. C'est pas moi qui les ai tous lus. Yannick est un peu plus avancé là-dessus. « Une vie en prière » de Paul Miller. Ça, je l'ai lu. Très bien. « Voici comment vous devez prier ». Donc, « Méditation biblique » de Andrew Murray. Ensuite, « Prier selon les Écritures ». Donc, toutes sortes de manières de prier. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé au niveau électronique. Il faut toujours que j'échappe quelque chose. Hein. C'est... Ça montre que je suis gaucher, je suis maladroit. Ensuite, « Vaut-il la peine de prier? » Un petit livret, « La vie chrétienne, la prière. » Et un autre livre que j'ai vu, le John Bunyan, « La prière. » Plein de livres, mais le livre par excellence auquel je veux me référer, auquel on devrait se référer, c'est la Bible. Donc, c'est notre livre qui devrait être la principale pour nous enseigner. Il devrait valider, selon les livres, est-ce que ce qui est suggéré est vraiment biblique? Et est-ce que c'est vrai, ce qui est là? Lorsque moi, je lis un livre, la chose que je me donne comme devoir à chaque fois, c'est de souligner et de lire chacun des passages bibliques qui sont cités. Parce que pour moi, ça l'aide à éclairer et voir est-ce que ce qui est enseigné est vraiment selon Dieu. Donc, j'ai fait un petit tableau, juste pour qu'on visuellement, on puisse bien voir, bien comprendre comment est structuré le chapitre, comment les 12 pierres de touche vont servir. Donc, en 4 sections, vous le voyez aussi dans vos notes à la page 1. Fait que j'ai donné un peu de travail à la personne qui était bénévole vendredi pour monter tout ça, là, ici, aussi dans les notes. Et puis, dans le fond, première manière de valider nos prières, est-ce que la prière, c'est un travail, c'est une réponse et un équilibre? On va voir chacune de ces sections-là. Ensuite, la prière exige de la grâce, de la crainte et de la faiblesse ou de la vulnérabilité. La prière offre une perspective, une force et une réalité spirituelle. Et enfin, la prière mène à la connaissance de soi, à la confiance et la soumission. Donc, je le rappelle, ce ne sont que des outils, mais ce qui va faire toute la différence, c'est la mise en pratique. Donc, parlant de pratique, prions tout de suite maintenant pour débuter notre cours sur la prière. Merci, merci Seigneur Jésus, parce qu'on peut venir présenter au Père, à Dieu notre Père, toute la gloire qui vous revient, toute l'adoration, la louange que tu mérites. Et cet accès-là est possible, cette inspiration-là est faisable par le sacrifice, la résurrection du Fils et aussi par l'Esprit-Saint qui a fait de nous son temple. Maintenant, nous n'allons plus dans le temple une fois par année comme souverain sacrificateur, mais miraculeusement, mystérieusement, nous sommes ton temple. Et la partie la plus sainte, Seigneur, elle est possible, elle est présente par l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Et Seigneur, aide-nous à se rappeler cela et que ce matin, Seigneur, on puisse voir tous ces outils-là, ces pierres de touche-là, pour évaluer est-ce qu'il y a une facette dans notre vie de prière qu'on n'a peut-être pas compris ou qu'on néglige ou qu'on oublie ou qu'on voudrait recommencer à exercer. Alors, parle-nous, Seigneur, ce matin. Et merci pour ton Église qui veut apprendre, qui veut grandir sur ce sujet-là qui est si important. En ton nom, Jésus. Amen. Donc, première section, la prière est. Premièrement, la prière est un travail. On peut dire aussi qu'il est un devoir, une discipline. Lorsqu'on parle de discipline, souvent on parle aux disciplines olympiques. Donc, pour se rendre aux Olympiques, c'est très rare que quelqu'un va dire « Moi, je sais que je suis bon pour lancer le javelot, alors voici, je lance loin, et prenez-moi et j'y vais. Un coup, une pratique, je suis qualifié. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les meilleurs de tous les meilleurs de chacun des pays et qui se rassemblent aux quatre ans au monde ont une discipline très, très serrée, sérieuse, et ils pratiquent leur sport, pratiquent leur entraînement, des fois 10 à 12 heures par jour. Donc, c'est vraiment assez intense. Et comme un athlète, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait voir aussi la prière pour s'améliorer, qu'on gagne à l'utiliser le plus souvent possible, à le pratiquer. Et puis, dans le livre, à la fin de vos deux notes, la première page, ça dit « au moins une fois par jour ». Et puis, je trouve ça peu. Pourtant, il arrive des jours que même moi, qui crois qu'on devrait prier plusieurs fois par jour, je ne suis pas meilleur que personne, mais je ne vais pas prier du tout pendant une journée. Et le lendemain, hop, je m'en rends compte, je reviens devant la présence de Dieu, je lui demande pardon, et je peux revenir encore dans la présence de Dieu, puis reprofiter, regoûter à cette joie-là d'être avec Dieu en prière. Et souvent, on peut le voir à différents endroits, on ne verra pas aujourd'hui tant que ça, mais prier en communauté. Donc, il y a une joie aussi de dire, « Hey, avant de raccrocher, est-ce que je peux prier avec toi? Avant de commencer telle chose, est-ce qu'on peut prier? Oh, j'entends ton besoin. On peut s'arrêter tout de suite puis prier ensemble pour ce besoin-là? » On lit un commentaire d'une sœur, d'un frère sur les réseaux sociaux, sur l'application de lecture biblique. Ah, il semble qu'il y a peut-être une requête qui est là entre les lignes. Il y a peut-être de la souffrance. Je vais m'arrêter tout de suite et je vais prier pour cette personne-là. J'ai eu la joie ce matin de rencontrer une sœur puis dire, « J'ai prié pour vous cette semaine. » Elle dit, « Ah, merci d'être fidèle à la prière. » Donc, je dis, c'est une fois par mois, c'est dans ma liste et tout ça, mais de pouvoir le faire s'encourager, la prière, c'est très encourageant, et de le répéter. Il y a un dicton, un proverbe qui vient du Talmud, c'est-à-dire la tradition verbale communiquée par les Juifs, qui dit, « La parole est d'argent, mais le silence est d'or. » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu cette expression-là? Donc, souvent, le silence est d'or, c'est le petit bout qu'on prend. Et puis, est-ce que ça, c'est vraiment biblique de dire que le silence est d'or? Puis la réponse, c'est, je vais dire ça, c'est les trois. Donc, oui, non, puis les deux. Donc, souvent, c'est bien de se retenir et d'être attentif et d'éviter de placoter, de bavarder. Dans la jeunesse, les vendredis soirs, on a trois règlements, R-A-P. Et le premier, R pour respect, ça nous demande d'être attentif à ce que le jeune a préparé pour le niveau musical, ce que l'autre responsable a préparé pour la méditation biblique, ce que l'autre qui fait l'animation. Et ce respect-là, même on se donne des outils pour être capable d'exercer ça, on décide de comme ranger les cellulaires. Ça, c'est un exemple. Et puis, ça, c'est bien. C'est bien d'être en silence, d'être attentif. C'est une marque de respect. Mais des fois, d'éviter de dire la vérité, hein, de camoufler la vérité, c'est un mensonge. Donc, on s'est posé une question et on répond qu'à moitié. Donc, ça, c'est pas vraiment biblique. Aussi, il y a certaines familles qui disent, « Moi, il y a des sujets que je parle jamais chez moi. » Pour éviter la chicane. Souvent, hein, c'est dans le temps de Noël. On dit, nous, chez nous, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, on ne parle pas d'argent, parce que ça crée de la chicane. Dans les dernières années, on ne parle pas de vaccins. Et j'ai lu hier, même dans un article dans la presse, en Alberta, Eux, ils ont racheté ou ont changé l'argent. Ils ont peut-être moins de misère que nous autres, les Québécois, avec l'argent. Ils disent, nous, on ne parle pas de sexualité. Ah, ça fait que pour les autres, ils ont peut-être plus de défis au niveau de l'identité sexuelle. Et donc, quelqu'un commentait dans l'article journal, ça, c'est trois choses qu'on ne parle pas dans notre famille. Et ça, c'est une forme de sagesse, d'éviter certains sujets, mais en même temps, c'est bien de pouvoir assumer puis dire nos croyances, nos convictions, mais souvent de la bonne manière, au bon moment. Lorsque quelqu'un nous adresse la parole, bonjour, puis là, on continue, puis on ne répond pas. L'impression de la personne va être, voyons, c'est quoi son problème? C'est bien donc impoli. Pourquoi elle m'ignore? Et puis, c'est bien, c'est considéré comme la moindre des choses, comme une bonne conduite de répondre ou minimalement. Et puis, le fait de garder silence, c'est pas toujours bien vu. Et puis là, ça me fait penser à une publicité qu'on voit là, d'assurance dernièrement. J'ai essayé de la retrouver, mais je n'ai pas trouvé. Puis là, ils sont tellement fins, ces assurances-là. Je pense que je vais me réconcilier avec mon frère que je n'ai pas parlé depuis 20 ans. Ça vous dit quelque chose, hein? Puis là, tout d'un coup, il crie en haut des escaliers. « Hey, Roger! » Je ne me souviens plus de son nom de son frère. « Je te pardonne! » Là, il répond dans sa chambre, l'autre. « Moi aussi! » « OK, c'est réglé. Ça fait 20 ans qu'ils ne se parlent pas, dans la même maison. » C'est ironique, c'est drôle, mais on voit que c'est la moindre des choses de pouvoir se réconcilier, se parler, tout ça. Donc, Paul termine donc cette section-là et Paul mentionne dans Romains 15, 30 que la prière est comme un combat. Puis il dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et ce combat-là, cette discipline-là est nécessaire. Il faut savoir dans quoi on s'embarque lorsqu'on prie. Donc ça, c'était la première section, la première pierre pour valider. Attends une minute, est-ce que ma prière, elle est pure, elle est efficace, elle est de valeur? Deuxième pierre de touche, la prière est une réponse. C'est une réponse, c'est une conversation avec Dieu. Donc, lorsqu'on a un dialogue, Dieu nous parle par sa parole et l'Esprit nous convainc, nous illumine. Et lors de la lecture, ensuite, ça nous amène à nous avoir le goût de répondre et tout ça. Ça, c'est une des manières, une forme de dialogue que, très simple, mais qu'on peut voir qui est que Dieu s'attend, lui qui est relationnel, avec sa création, qu'on puisse parler avec. Et lorsque Dieu a créé les êtres humains, au point de départ, Adam et Ève, et qu'ils n'avaient pas encore péché, c'était normal que Dieu soit dans le jardin avec eux et qu'ils s'entretiennent, qu'ils parlent, qu'ils entendent la voix de Dieu naturellement. Mais lorsque le péché est arrivé, à ce moment-là, tout d'un coup, il y a comme une distance qui s'est prise. Ils ont eu comme honte, on pourrait dire, de leur péché, et ils sont cachés loin de la face de Dieu. Et l'Éternel, il n'a pas dit, bon, ils ne sont plus là, ok, je m'en vais. Non, il a continué à courir, à rechercher cette relation-là. Puis, ce qui est dit, c'est qu'il les a appelés quand même. Puis il a même questionné, « Où es-tu? » Donc, Dieu était en relation avec nous lorsqu'il a créé sa création parfaite. Et puis, il est conscient lorsqu'on pêche. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse entendre sa voix, y répondre et se rapprocher de lui, revenir à lui, nous amener les péchés. Et puis, Dieu va continuer à nous appeler à chaque moment. Lorsque j'oublie hier de prendre du temps avec Dieu, aujourd'hui, il est content de me revoir. Donc, ça, on voit ça, entre autres, dans Genèse 3. Ensuite, la troisième pierre de touche, qui parle que la prière est quelque chose, la prière est un équilibre. Souvent, on dit dans la prière, il y a quatre éléments. Il y a la louange, la confession, la reconnaissance et la supplication. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Et on l'a vu jusqu'à un certain point, chacun de ces éléments-là, dans le cours la semaine dernière, lorsque Jésus, dans Matthieu 6, enseigne le Notre Père, que c'est tous des éléments qui sont là. Mais une chose qu'on a vu aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement obligatoire, à chaque fois qu'on prie, d'arriver avec ces quatre éléments-là. Et l'ordre non plus n'est pas si importante que ça. Dieu voit le cœur, regarde le cœur, puis c'est quoi qu'on veut atteindre lorsqu'on vient le voir. Si on vient le voir seulement avec des requêtes, mais qu'on a foi qu'il va répondre, mais c'est le bon point de départ aussi, on va le voir plus loin. C'est pas nécessaire d'utiliser chacun des éléments à chaque fois qu'on prie, et les psaumes reflètent tellement bien comment on vit toutes sortes d'émotions dans notre vie chrétienne. Exemple dans les psaumes, il y a toutes sortes d'exemples de prières, puis aussi, on voit que la Bible, il y a plein de sortes d'adresses différentes à Dieu, de manières de prier, et une chose qu'on peut dire, c'est plus qu'on va voir la puissance de Dieu, plus on va vouloir dépendre de lui. Donc, cet équilibre-là que Dieu veut dans cette relation-là entre lui et nous, se fait de manière naturelle, se fait avec des outils, mais surtout avec la dépendance de lui, et c'est là que sa puissance va se révéler. Maintenant, deuxième section, la prière, maintenant, elle exige trois choses. Elle exige qu'il y ait la grâce, c'est-à-dire prier au nom de Jésus selon les évangiles. Moi, j'aime bien, je suis peut-être dans les rares là, qui parlent de tout ça, mais je fais attention quand même des fois. J'aime bien écouter des films où ce que des films qui font peur, on va dire ça comme ça. Et il y a une semaine et demie, j'ai écouté un film qui parlait de l'exorcisme du pape. Et puis, c'est basé sur une histoire vraie. Et souvent, il y a un stéréotype dans les films, surtout de ce type-là, où tout d'un coup, ils sortent la croix, puis ils sortent l'eau bénite, puis ils sortent toutes sortes d'outils, puis ils font toutes sortes de prières. Et une chose qui est bien quand même, souvent on entend, bon, ben au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est vrai, Jésus a toute une puissance, mais ce n'est pas nécessairement une formule magique, le au nom de Jésus. Même quelqu'un, j'ai déjà entendu, est-ce que c'est obligatoire de terminer toutes nos prières par au nom de Jésus? En fait, si on n'est pas conscient qu'on peut prier Dieu parce que Jésus nous permet ça, à ce moment-là, on n'est déjà pas à la bonne place dans notre conscience par rapport à la prière. Donc, le nom de Jésus doit faire partie de cet évangile-là qu'on veut vivre à tous les jours, qu'on veut expérimenter pour être en contact, en relation avec Dieu. Et il faut se rappeler que ce n'est pas à notre propre nom qu'on s'adresse à Dieu, c'est par la grâce, par son sacrifice. Et puis, dans le fond, juste un petit rappel, j'aime bien des fois être un peu marginal ou anticonformiste, puis là, je vais commencer, Saint-Esprit, je veux te parler. Mais je dois vous avouer que bibliquement, la majorité du temps, les prières sont adressées au Père. C'est pas mal de faire une prière au Saint-Esprit ou à Jésus, mais dans les modèles qui existent, il faut se souvenir que, dans le fond, on peut parler au Père, parce que Dieu, Jésus, nous a fait peur, grâce, pardon, et parce que nous, on dépend de Dieu l'Esprit. Donc, c'est vraiment tout un tout, et c'est important de se le rappeler, et juste de sonder aussi nos motifs. Pourquoi je prie le Fils maintenant? C'est pas pour que les gens disent, « Ah, il est dans le monde bizarre, lui, il est spécial. OK, pourquoi il parle de ça? » Non, non, c'est parce que je veux vraiment parler quelque chose de spécifique au Fils. Et c'est possible de le faire, mais de sonder nos motifs. Dans Jean 14, on voit que c'est écrit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui dit ça. « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Donc, Jésus fait une déclaration quand même très claire et très puissante. On va regarder plus loin, mais qu'est-ce que ça veut dire de demander quelque chose en son nom? Donc, c'est pas juste d'utiliser « au nom de Jésus, je veux une Lamborghini ». Vu que j'ai utilisé le nom de Dieu, j'ai le nom de Jésus, c'est sûr que je vais l'avoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis j'ai un passage biblique que je voulais lire aussi dans Matthieu 11, versets 25 à 30. C'est dans vos notes à page 3, puis c'est aussi probablement à l'écran. J'aime beaucoup ce passage-là. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et Jésus nous enseigne que lui qui dépend du Père, nous voulons avoir la même attitude, dépendre du Fils pour venir en la présence de Dieu. Ensuite, la prière exige la crainte, c'est-à-dire de prier du fond du cœur dans une admiration qui est mêlée d'amour et de respect. Donc, un beau petit mélange là, ensemble de ces deux éléments-là, de ces deux ingrédients-là. Et j'ai écrit dans les notes ici, il faut faire attention à ce qu'on appelle des récitals, hein, de répéter, juste répéter sans réfléchir des mots pour des mots, ou à du théâtre. Hein, on voit les pharisiens qui priaient sur les coins des rues. « Ah, merci que je ne suis pas comme… » Et on voyait clairement, et c'était montré le cœur, l'intention n'était pas bonne. Je fais une petite parenthèse, mardi prochain, ici au bâtiment, nos adolescents vont recommencer à avoir une troupe de théâtre. Donc, ceux qui ont à peu près mon âge, dans les années 90, à Longueuil ici, on avait une troupe qui s'appelait « Art et Stop ». Donc, arrêt, stop. Et Dieu a donné, finalement, ça fait des années que j'espère, je prie, je vois que c'est vraiment un moyen pour les adolescents d'être exposés par un angle différent à la bonne nouvelle, à Jésus. Et la semaine prochaine, on va commencer à avoir une troupe de théâtre qui va pratiquer et nous présenter quelque chose, probablement cet automne. Et ça fait vraiment du bien, c'est le fun. Et le fait d'être théâtral, c'est aussi une question d'intention. Pourquoi on utilise le acting ou le fait de s'incarner dans un personnage? Si c'est pour pointer et glorifier Dieu, c'est très bien. Et Matthieu 15, 8, ça dit « Faites attention, ceux qui honorent Dieu seulement du bout des lèvres, sans que ça vienne de leur cœur. » Donc, Dieu ne porte pas tant attention aux mots qu'on dit, mais plus à l'intention derrière les mots. Et à page 149, notre auteur de notre livre, je ne vais pas me tromper, le Tim Keller, dit « Le Saint-Esprit vit en vous et il vous pousse et vous aide à prier. Tout cela prépare vos cœurs à la prière. Merci pour le Saint-Esprit, Dieu. » Puis un verset qui vient comme mettre tout ça ensemble au niveau de la crainte, ça dit dans Colossiens 3, « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc, le fait de venir en présence de Dieu, ça va nous aider à voir tous ces péchés-là qui sont dans notre vie et on va pouvoir demander à Dieu de nous les révéler, mais aussi de prier pour que ça puisse disparaître de nos vies. Cupidité, ça veut dire être avare de, vouloir beaucoup de. Le mot cupidon peut venir de cupidité, mais moi, je ne l'associe pas nécessairement tant à l'amour, je l'associe plus à l'argent, vouloir beaucoup de richesses. Donc, c'est ce que ça veut dire, cupidité. Je répète la question. Ensuite, ce que exige la prière, c'est la faiblesse ou la vulnérabilité, c'est-à-dire de accepter notre état, qu'on dépend de Dieu et que c'est pas par nos propres forces qu'on va être capable de faire réaliser nos prières. La faiblesse et la prière sont inséparables l'un de l'autre. Seul celui qui a conscience de sa faiblesse sait prier. Donc ça, c'est notre auteur aussi qui dit ça, puis c'est très tiré d'un livre qui s'appelle aussi « La prière », un autre de Old Asbury. Dans Romains 8, on peut lire « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, c'est selon Jésus, au nom de Jésus, qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, dans Apocalypse 3:20, on voit hein, l'illustration que quelqu'un se tient à la porte et frappe. Donc, notre dépendance de Dieu doit être entière et elle va être éternelle. Lorsqu'on prépare notre cœur, on dispose notre cœur pour répondre à Jésus qui frappe à la porte. Et lorsqu'on répond de bon cœur, on va avoir la force et on va avoir la volonté de pouvoir ouvrir la porte. Nous, on va avoir la capacité pour faire ça. On va pouvoir le laisser entrer, manger et communier avec nous. Et ensemble, on va pouvoir communier. Donc, c'est ce qui m'est fait à la deuxième, à faire la moitié du chapitre au complet. Donc, j'arrive à l'autre moitié du cours. Il reste deux autres sections. La prière offre, trois autres pierres de touche. Je vais prendre une gorgée d'eau aussi dans ce moment de mi-temps. Donc, la prière, maintenant, offre une perspective, hein, une vision qui s'oriente vers Dieu. Quand on parle à Dieu, on a lu dans le verset précédent que des fois, on ne sait pas quoi dire. Et souvent, c'est par des soupirs inexprimables que l'Esprit-Saint va révéler à Dieu la prière qu'on devrait lui faire. Mais j'ai pris une note que, puis c'est vraiment important dans le livre, puis pour moi, c'est très important aussi dans ma vie pratique de prière, de parler à Dieu idéalement à voix haute, ça va amener notre vision à changer. Ça va nous aider à identifier notre besoin, notre peur, notre espoir, notre préoccupation, des questions, des problèmes et même nos péchés. Et un des moments préférés que j'ai dans la prière, c'est souvent dans ma voiture. Donc, deux à trois fois par mois, je vais à Sorel-Tracy. De chez nous, c'est peut-être 45-50 minutes en voiture. Et c'est une occasion que j'essaie de ne pas manquer. Souvent, je fais des appels, mais encore plus souvent, je vais parler à voix haute à Dieu. Maintenant, beaucoup de gens parlent au téléphone dans la voiture, puis on ne les voit pas. Fait qu'on a l'air moins fou qu'avant de faire ça. Mais le fait de moi-même entendre mes prières, le fait que ce qui est dans mon cœur sort à voix haute, ça m'aide à plusieurs niveaux. Ça m'aide à me concentrer. Ça m'aide à avoir de l'ordre dans mes idées. Ça aide à ce que, dans le fond, lorsque je parle, j'entends ce que je dis aussi. Puis ça inspire aussi d'autres mots qui peuvent sortir. Souvent, notre pensée va beaucoup plus vite que nos paroles. Et je pense que c'est bien des fois de s'arrêter puis juste de dire, de verbaliser ce qu'on a à dire. Fait que Dieu a la capacité d'entendre nos pensées, mais il ne nous a pas créés comme ça, comme êtres humains. Donc, j'aimerais ça que ma mère, elle a compris. Hein? J'ai fait un message et puis, non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle peut lire mon non-verbal. Est-ce que je suis nerveux présentement? Est-ce que je suis concentré, je suis focusé, mais elle ne va pas entendre ce que je pense. Il y a plein de films qui souhaitent, qui disent, ou même peut-être un jour, dans notre intelligence, le cerveau va être capable de percevoir ce que l'autre dit. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous a créés depuis le début des temps. Et la parole est utile. Et moi, ça me rappelle probablement l'expérience la plus marquante que j'ai eue de prière, celle qui m'a le plus chaviré. J'étais il y a probablement 6 ou 7 ans à Vancouver pour une rencontre de tous les pasteurs du Canada, de notre association des Églises Baptistes, le Fellowship. Et puis, je devais y aller avec Yannick. Et puis, Yannick a une urgence familiale. Donc, je suis allé tout seul à Vancouver. Et à ce moment-là, c'était le début du 24-7 de prière. Et mon temps de prière était à 6 heures le matin lorsque j'étais à Montréal. Mais à Vancouver, c'est 3 heures de différence, de décalage. Donc, mon 6 heures était rendu 3 heures du matin. Donc, je voulais être fidèle. Fait que je me lève, puis je savais que dans l'hôtel, dans lequel j'étais, il y avait une chambre de prière qui était installée là, où on pouvait aller prier 24 heures sur 24. J'étais allé me rendre là, donc j'ai dit, je vais vraiment me concentrer, focusser le temps. Et je me suis mis à prier. Puis j'ai dit, je vais prendre la position aussi d'humilité. Je me suis mis à genoux. Et c'est dans les rares et fois que ma prière, qui a duré une heure, était très sentie, émotive, à voix haute, mais même remplie de pleurs. De pleurs pour notre nation qui a besoin d'un réveil, mais aussi de pleurs parce que Dieu était présent. Je le sentais dans ma vie. Et là, le danger, c'est « Ah, je veux réessayer cette expérience-là. » Donc, je m'achète un autre billet et je m'en retourne à Vancouver et j'essaye ça. Donc, ça ne marche pas de même. Mais pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les bienfaits de prier à voix haute. Et c'était un moment exceptionnel de prière que j'ai eu. L'auteur dit que on peut aussi découvrir, lorsqu'on prie, qu'on est bien plus stupide. Stupide. Je le répète, comme dans un des films que j'ai vu dans « I am Sam », »,« Je suis Sam », hein, il a l'âge mental de 7 ans, puis sa fille s'en va sur 8 ans, puis il ne peut plus prendre soin d'elle. Puis là, d'un coup, il réalise « Je suis stupide ». Non, non, attends une minute, là, l'intelligence n'est pas juste reliée à l'âge mental. Hein. Il y a une intelligence émotionnelle qui est là. Et cette réalisation-là de stupidité était marquante, parce qu'on voit vraiment que cet homme-là, ce père-là, avait une limitation mentale. Mais lorsqu'on prie à voix haute, on voit nos limitations. Des fois, on va voir nos stupidités, on va voir notre égoïsme, et ça va révéler ce qu'on pense, ça va révéler qui nous sommes réellement. J'ai pris un psaume, le psaume 73, qui parle, c'est David, je pense qu'il parle là, versets 14, 17 et 20. Trois perspectives au moment de sa prière. J'ai mis des petits ajouts entre crochets juste pour nous aider à comprendre ces trois étapes-là de la prière. Premièrement, il dit au verset 14, « Ma réalité, ce qui est réel pour moi, là, ce qui est, je pense qui est vrai, c'est que chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Donc lui, là, il est en détresse. Probablement qu'il y avait des ennemis qui étaient avec lui et qui couraient après lui, qui essayaient de le tuer. Et à chaque fois qu'il se réveillait, à tous les matins, à chaque jour, il sentait qu'il allait mourir. Il avait peur de ça. Et au verset 17, il continue, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré, soit entré dans le sanctuaire de Dieu. » Donc, probablement pas qu'il allait dans le temple nécessairement. Peut-être que oui, à un moment, mais d'autres fois, il était caché dans les grottes. Et entré dans le sanctuaire de Dieu par la prière, et que j'ai pris garde, ou que ma réflexion, ma perspective a changé par rapport au sort final des méchants. Donc, tous ces méchants-là, qui en veulent à ma vie, qui sont mauvais ou qui vivent des choses injustes. Eux ont du bien, puis moi j'ai du mal. Lorsqu'il est entré dans la prière, tout d'un coup, il a pris garde, il a comme réalisé que la finalité des méchants n'est pas la même que la sienne. En bout de ligne, Dieu va juger, et même si on a de la prospérité sur cette terre, si on n'est pas enfant de Dieu, le jugement mène à l'enfer. Donc, il faut se rappeler ça. Donc, sa perspective a changé. Ma vie, ma difficulté en temps présent, à cause d'eux. Là, de quoi? Attends une minute. Eux, là, sont peut-être pas si bien ou si remplis d'espoir que moi. Et finalement, le verset 20, ça dit, « Comme un songe au réveil, donc tout d'un coup, pouf, la vraie réalité arrive. Seigneur, tu repousses leur image et ma vision est réorientée. » Donc, leur image, ce que je vois, ce qui semble être ma réalité, tout d'un coup, Dieu repousse ça et ramène la vraie perspective, la vraie vision et le vrai espoir que ce n'est pas sur cette terre qu'on va réellement goûter à la justice de Dieu et qu'on ne va pas souffrir. C'est après, avec Dieu, qu'on va être avec lui sans souffrance, sans maladie et sans mort pour l'éternité avec Dieu. Ensuite, la prière offre une force, c'est-à-dire une union spirituelle avec Dieu. Donc, moi, comme Italien, beaucoup de références à la nourriture viennent me parler particulièrement. Donc, j'aime bien manger, j'aime la sauce de mon père, et c'est réputé, j'ai un gros appétit. Justement, hier, j'étais avec des amis de Québec, on est allé à un restaurant brésilien, puis c'était à volonté, puis... cette fois-ci, j'ai réussi à ne pas avoir mal au cœur parce que j'avais trop mangé. Ouh, hein, c'est. Mais souvent, quand je vais en ce restaurant-là, j'en mange trop. Donc, j'ai été raisonnable, mais pas tant que ça. Je n'ai pas osé aller sur la balance ce matin parce que je savais que j'avais pris probablement 4 livres, là, quelque chose comme ça, là, de poids, juste parce que j'ai mangé beaucoup. Mais toutes ces images de nourriture, lorsque c'est vu à la lumière des Écritures et de Dieu, sans excès, ça nous pointe vers plein de vérités. Hein, on mange à tous les jours. Donc, Jésus a pris des situations, des paraboles, des exemples qui nous parle dans ce que notre quotidien. Donc, oui, il a parlé souvent de fermes, de bergers, tout ça, parce que c'était dans leur contexte, mais il a aussi parlé souvent de repas. Donc, on voit, c'est une citation là, aux pages 152-153, donc au milieu de votre page 4, dit « Comme la nourriture, la prière renouvelle notre force et notre santé. » Ça dit aussi « Lutter dans la prière pour nourrir notre âme. » C'est important de faire ça. Et oui, il y a une lutte qui est là, et la nourriture de notre âme est même plus importante que la nourriture de notre corps. Et c'est vraiment la prière qui va nous donner de la puissance, de la force et une santé spirituelle. Et une chose qu'on voit dans Jean 15, donc c'est un exemple, le verset 1 à 17, c'est comment garder notre force en Dieu. Il dit « Tout comme une branche, comme un sarment, on veut rester attaché au tronc, au sceptre, et on veut demeurer en Dieu le Fils, en Jésus. » Donc, si on coupe une branche, habituellement, elle meurt, à moins qu'on fasse une technique là, pour qu'elle redevienne un tronc. Puis qu'il y ait des... Ça, c'est une autre chose, mais on ne va pas là. Et ça dit, j'ai résumé comme ça, nous, on a tous un tuteur, un appui qui est là pour nous aider à arriver, avec les outils de la prière, à nous appuyer et profiter de ce que le vigneron, Dieu le Père, le grand jardinier, nous met à disposition pour grandir et éventuellement porter du fruit. Éphésiens 6, versets 10 et 18 dit, « Au reste, soyez forts, fortifiez-vous, hein, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa puissance, par sa force toute puissante. » Et au verset 18, ça dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières d'explication, des requêtes, et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez sans cesse et priez pour tous, priez pour tous les saints. » Donc, cette puissance-là, cette force-là est possible en priant continuellement. Et puis, ça m'arrive même des fois, c'est rare, mais tout d'un coup, dans mon rêve, je réalise que je peux réavoir une conscience et je peux me mettre à prier dans mon rêve, parler à Dieu. Et c'est rare, mais j'aime ça faire ça une fois de temps en temps. Pour toutes sortes de rêves, des fois des rêves très positifs. « Oh wow, c'est magnifique ce qui se passe. » Ou des fois des cauchemars, on se dit « Hé, j'aime mieux pas, je peux-tu me sortir de là, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Mais je ne rentrerai pas dans les rêves, on n'a pas de contrôle sur nos rêves, mais des fois ça arrive de pouvoir expérimenter la prière dans différents contextes qu'on même on ne pourrait pas imaginer. La dernière chose que la prière offre, c'est une réalité spirituelle, c'est-à-dire qu'on peut ressentir la présence de Dieu dans notre cœur. Attention aux émotions, aux ressentir, hein? Souvent les églises baptistes, on va dire ça. Mais par la prière, notre connaissance peut, qui est abstraite de Dieu peut devenir vraiment une réalité qui est tangible. Et ça amène à plus seulement se contenter de croire en la gloire de Dieu, mais on peut maintenant sentir cette gloire-là de Dieu lorsque on est vraiment connecté à Dieu dans la prière. On ne croit plus de manière abstraite, mais... on croit de manière complète que Dieu nous aime, nos cœurs sont inondés d'amour. Hein, côté positif d'inondation, pas la goutte fait déborder les vases ou un tsunami, mais j'en peux plus. C'est comme, ah, je ne suis pas capable de contenir l'amour de Dieu. C'est trop grand, trop beau. En mes mots, la méditation spirituelle qui vient de la Bible, donc la bonne méditation, va produire une inondation de tendresse et un désir d'obéir et de servir Dieu. Maintenant, la dernière section des pierres de touche. Hein, j'avais un autre verset, mais je vais le passer dans Daniel 9. Je prendrai le temps de le lire, où ce qu'on voit que l'ange Gabriel permet au cœur de Daniel de connecter avec Dieu, puis même révèle ensuite une vision. Donc, la dernière section... La prière mène à trois choses. Premièrement, la connaissance de soi, donc c'est-à-dire d'être capable d'être honnête et de faire une bonne introspection. Donc, souvent, Dieu qui sait tout va être déçu lorsqu'on marmonne nos prières. Et on a souvent tendance à faire ça. Mes enfants sont dans le cours là en haut au niveau des ados, que je peux le dire, mais il m'est arrivé il y a peut-être 2-3 mois de dire, il me semble que lorsque vous priez, on vous demande de prier pour le repas, c'est souvent exactement la même prière que vous faites. Et vous-même, vous ne changez même pas les mots, vous demandez comme les trois, quatre choses pareilles tout le temps. Est-ce que vous pensez que c'est respectueux envers Dieu de faire vite, vite une prière comme ça, automatique? Puis, une sorte de joke aussi dans la prière qui est correct parce que mes enfants aiment beaucoup ce sujet-là. C'est notre chien qui s'appelle Nutella. Puis souvent, ils vont prier pour la nourriture, puis ils terminent « Merci parce que Nutella est belle. Amen. » Ah, OK, elle est belle, c'est bon. Je suis content que les enfants vous reconnaissent, vous trouvez beau la création de Dieu, le chien, mais y a-t-il une manière de le dire que tu le crois vraiment avec ton corps, pas juste une formule qui est là? Et puis là, tout d'un coup, je les entends là, quand ils refont la prière. Alors, Dieu, c'est le fun d'avoir un chien qu'on aime beaucoup puis qu'on trouve qui est la plus belle du monde, même si y en a qui n'aiment pas les chiens avec le nez écrasé. Donc, ils rajoutent des mots pour que la prière ne soit pas juste un marmonnement ou un automatisme, mais que ça devienne senti. J'étais pas mal fier de voir que les enfants avaient compris cet élément-là du respect dans la prière. Souvent, ça va démontrer un manque d'effort lorsqu'on marmonne, de prendre le temps de parler à Dieu. Et puis, lorsqu'on va trop vite, mais on peut passer à côté des fois de peur, de grandes peurs qu'on peut vivre, de blessures, de faiblesses, des péchés, qui devraient être nommés clairement à voix haute à Dieu pour qu'on réalise notre besoin de lui, qu'on réalise qu'on a besoin de s'humilier et de dépendre de lui pour le pardon et pour son aide dans toutes ces situations-là. Donc, dans la prière, on doit pleinement être nous-mêmes, pardon. Et j'ai l'écrit comme ça, un peu comme une roue qui roule sans fin. Je dis, plus je vais prier et plus je vais me connaître. Plus je vais me connaître et plus je serai en mesure de voir comment Dieu est grand, glorieux. Et plus je vais prier et mieux je vais prier et ainsi de suite. Donc, toute cette roue-là de la prière, je trouve que c'est très pratique. Et Hébreux 4, 13 dit que nulle créature n'échappe aux yeux de Dieu. Tout est nu et à découvert à ses yeux. Donc, rappelons-nous cela. On ne peut pas cacher, on ne peut pas faire semblant aux yeux de Dieu. Dieu voit tout. Même mon épouse, lorsqu'elle me voit, lorsqu'elle m'entend prier, elle ne voit qu'une facette de moi-même. Elle voit bien ce que je veux bien lui révéler, que ce soit inconscient ou conscient. Et puis, Dieu, lui, voit réellement, complètement, tout mon cœur, mes intentions. Avant-dernière pierre de touche, ça dit que la prière mène à la confiance, c'est-à-dire qu'elle crée une confiance complète, totale, un espoir sans faille. Moi, j'appelle ça aussi la foi. Psaume 37, c'est un de mes psaumes préférés, autant pour ma vie, j'avais appelé ça quand on faisait d'évangélisation, j'avais l'âge d'à peu près de 21 ans, un chant sur le psaume 37, puis souvent, même aux jeunes adultes, lorsqu'ils arrivent à des grosses décisions dans leur vie, je les encourage à souvent on dit, c'est quoi la volonté de Dieu? T'sais? Puis j'encourage à méditer, puis essayer de mettre en pratique ces versets-là. Ça dit dans le psaume 37 au verset 3 à 5, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets-lui ta confiance, et il agira, et il répondra, il écoutera tes prières, et sa volonté va être faite. Et ça, c'est pas juste pour les jeunes qui ont des grosses décisions. On a des étapes dans notre vie où on a plein de sortes de décisions, où on va peut-être changer d'emploi, on va déménager, on va chercher une église locale, on va chercher à trouver comment nous réconcilier avec Dieu. Pas avec Dieu, avec notre prochain. Puis là, on ne sait pas c'est quoi la manière. C'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que je devrais dire à cette personne-là pour être vrai, mais aussi l'attirer à toi, la gagner cette personne-là pour qu'elle soit à toi? Je parlais avec un jeune il y a quelques semaines, puis il me dit, j'ai à cœur de dire ça à ma mère. Là, je regarde ce qui est dit, je dis, oh, ça semble tout vrai ce que tu écris pour ta mère, ce que tu veux dire, mais prie là-dessus que Dieu te donne comment il veut que tu lui parles. Et puis, n'oublie pas que tu es là juste pour être un instrument pour, par miracle, pouvoir gagner son cœur. Et ce n'est pas en étant dur qu'on va arriver à toucher le cœur. C'est en agissant avec douceur, mais aussi avec respect. J'ai une illustration qui me vient en tête. En fait, quelque chose que j'ai vécu il y a environ 8-9 ans. C'était dans mes premières années comme pasteur à l'église. Et puis, il y avait un homme qui était en conflit avec, avec un pasteur, deux pasteurs, puis on avait une confiance, moi et lui, ensemble. Je me suis assis avec lui, puis on a commencé à discuter, et puis j'ai essayé de voir comment je peux l'aider à essayer de comprendre ce qu'il me dit, puis voir est-ce que c'est réconciliable, puis est-ce qu'on peut, réarriver à rétablir la relation entre lui puis un ou deux autres pasteurs. Puis bien sûr, dans l'expérience que Dieu voulait me donner, il est devenu en conflit avec moi. Fait que là, je dis, oh, est-ce que j'abandonne, tu sais? Et puis, Dieu m'a donné le courage de persévérer, d'écouter. Puis une des choses qui m'a dites, malgré que ce n'était pas tout rempli de sagesse et ses raisons n'étaient pas toutes bonnes, mais quelque chose qui m'a enseigné à ce moment-là, c'est Luigi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est lorsque tu me reprenais avec dureté. Et la Bible nous enseigne à reprendre notre prochain avec douceur, d'honorer, d'être respectueux puis doux avec nos aînés. Et tout d'un coup, j'ai réalisé la valeur des aînés dans ma vie et cette sensibilité-là que plus on vieillit, j'arrive proche de 50 ans, et plus émotionnellement, on est plus fragile, je vais dire ça comme ça. Et puis, ça a changé ma perspective avec mes aînés, entre autres, puis d'essayer de mieux comprendre les gens que Dieu mettait autour de moi pour que j'apprenne, donner des conseils, mais aussi pour arriver à rechercher la paix, mais avec douceur. Donc, je ne sais pas comment je me suis rendu là au niveau de la section là, d'avoir la foi, mais je trouvais que c'était c'est un exemple qui m'est venu en tête. J'aime ça être vrai avec vous. Revenir à mes notes. Donc, c'est le dernier paragraphe de la page 5. Ça dit, « Nos dernières paroles lors de chaque prière devraient servir à... » Donc, pas nécessairement être dit, mais l'utilité devrait servir à remercier Dieu pour la réponse, quelle qu'elle soit, qu'il va apporter dans sa sagesse. Donc, faire confiance que Dieu va accepter, va nous donner ce qui est meilleur pour nous. Et pas nécessairement absolument ce que nous voulons, ce que nous pensons que nous avons besoin. Puis, dans le livre, ça dit, « Même les enfants sont conscients que leurs parents connaissent les choses mieux qu'eux. » Donc, ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est les enfants vont venir voir. « Papa, dans ton temps, là, comment c'était ça? » Ou, ça fait longtemps que tu existes. Hein? Donc, dans ton temps, as-tu déjà vécu ça? Oui, ma fille, lorsque j'étais dans la caverne avec ta mère et puis qu'on chassait le mammouth, voici l'expérience que j'ai eue. J'exagère, j'amplifie, mais les enfants sont conscients qu'on a vécu bien avant eux et qu'on a une forme d'expérience. Et on devrait voir ça, que Dieu qui est là depuis tous les temps, lui, son expérience, elle est parfaite et son conseil est parfait. Et souvent, lorsqu'il dit non à nos prières, c'est pour notre bien. En fait, tout le temps, c'est pour notre bien. Et souvent, lorsqu'il ne répond pas tout de suite, il dit « attends », c'est pour travailler des choses dans notre vie. Dernière pierre de touche, la prière mène à la soumission, c'est-à-dire que notre vie entière soit au service de Dieu par amour pour lui. Je vais terminer par un passage biblique dans Jacques 1 et 4, et puis après ça, on va faire une dernière citation et puis je vais prier. Donc, Jacques 1, verset 5 à 10, ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme qui manque de résolution, qui est irrésolu, qui manque de conviction, qui est inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, c'est Dieu qui élève, ce n'est pas nous-mêmes, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme une fleur de l'herbe. » Je pense à un pissenlit hein, qui, tout d'un coup, devient blanc, et un petit coup de vent, pff, et c'est passé, ça n'existe pas, ça n'existe plus. chapitre 4, versets 2 à 3, ça complète. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. » Même dans nos pensées, hein, on l'est tous comme ça. Hein, si on a de la haine pour notre frère, on est comme un meurtrier, comme Caïn. « Et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Puis il conclut, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et commencer de demander mal, c'est dans le mal, dans le but de satisfaire nos passions. Si c'est pour notre propre gloire qu'on demande, ce n'est pas comme ça que Dieu a compris. Dernier extrait dans la page 160 du livre que je veux prendre comme conclusion, ça dit, « Si Dieu n'a pas la première place, nos prières sont égoïstes, sont instrumentalisées, c'est-à-dire que ça, c'est juste des outils, des moyens, mais c'est pas réel, et aussi sont dévastatrices, c'est-à-dire qu'elles vont faire du tort, puis il va nous empêcher de goûter la paix. » Prions le Seigneur. Merci, Éternel, pour cet auteur qui s'inspire de ta parole et qui nous amène toutes sortes d'éléments pour valider, Seigneur, si nos prières se rapprochent de la pureté de l'or comme une pierre de touche qui évalue quel est le nombre de carats ou si c'est de la fausse or. Oui, Seigneur, on veut, au travers de tout ce qu'on a vu ce matin, de chacun de ces éléments-là, premièrement, sonder notre cœur et voir à quel endroit. C'est beaucoup 12, Seigneur. On ne peut pas tous les travailler en même temps. Des fois, les pasteurs, mon coach me dit, « Luigi, tu ne peux pas avoir 27 objectifs dans une année. C'est impossible à les atteindre. Concentre-toi sur 2-3. » Et Seigneur, c'est ma prière aussi pour moi, pour l'Église, que tu puisses nous rappeler 2-3 choses qu'on a vues ce matin et nous apprendre à grandir, à le mettre en pratique pour que notre vie de prière, Seigneur, soit encore plus remplie de joie, plus remplie de foi, de paix et, Seigneur, de qui tu es. Apprends-nous à prier sans cesse. C'est en ton nom, Jésus, que je t'ai prié. Amen. Merci. Je vous libère et on se revoit dans une demi-heure pour la célébration.